Grand Colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Donc voici le sprint final qui va nous faire vivre, je crois, encore quelques horreurs. Alors, j'ai peine à présenter M. Deyrens parce que je ne le connais pas du tout et donc je lui serais reconnaissant de se présenter en deux mots avant de passer au vif du sujet.
Bien, merci M. le professeur de me présenter. J'ai presque honte dans une telle assemblée. Non, moi, je suis de formation, je suis historien. J'ai il y a un certain temps passé l'agrégation d'histoire et puis j'ai laissé tomber l'enseignement et la recherche pour faire du journalisme. Je l'avoue, j'avoue ce crime terrible. Et donc depuis...
On vous le pardonne.
Merci bien. Depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai vécu longtemps dans les pays post-yougoslaves et je suis, comme journaliste, en écrivant également des ouvrages ou d'autres formes d'analyse sur... cette histoire très contemporaine, enfin en tout cas cette histoire en train de s'écrire et qui n'est sûrement pas terminée. Alors, ma communication, je vais donner comme titre « S'agit-il d'une guerre civile ?» J'aurais pu aussi, pour rebondir sur le thème de la sous-partie de cet après-midi, poser la question « Est-ce une guerre sauvage ?» Mais des guerres sauvages, mais je vais y revenir dans mon exposé. En tout cas, ce qui est certain... c'est que ce cycle de guerre yougoslave, au pluriel, il y a plusieurs guerres que je vais essayer de distinguer, c'est tout d'abord le premier conflit majeur sur le sol de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, le premier conflit d'une Europe d'après la guerre froide. Et ce contexte historique est extrêmement important, je vais y revenir. Alors, schématiquement, on distingue cinq conflits qui sont tous... de nature et d'importance assez différentes. Alors, pour rappeler, pour poser les éléments en introduction, il y a tout d'abord eu la guerre de Slovénie, une guerre qui a duré une quinzaine de jours en juin-juillet 1991. Ensuite, la guerre de Croatie, qui a duré du printemps ou de l'été 91 jusqu'à l'été 1995. La guerre de Bosnie-Herzégovine, qui commence en mars-avril 1992 pour s'achever en décembre 1995, et puis la guerre du Kosovo qui commence véritablement en mars 1998 pour s'achever en juin 1999, et après la dernière secousse, c'est le conflit de Macédoine au printemps 2001. On pourrait également évoquer la petite guérilla qui était apparue à peu près de manière contemporaine dans le sud de la Serbie, dans la vallée de Preševo. Alors ces cinq conflits présente des bilans très contrastés. Je vais donner tout de suite quelques chiffres. En Slovénie, on a un décompte très précis qui est de 63 morts. En Croatie, on arrive déjà à des chiffres plus importants et un petit peu plus imprécis, mais grosso modo, le consensus s'établit autour de 15 000 pertes humaines et de 300 à 450 000 déplacés et réfugiés, ce qui donne tout de suite une idée de l'importance du conflit. En Bosnie-Herzégovine, on arrive à un bilan alors qui avait dans un premier temps été évalué à 200 000 morts. Aujourd'hui, ce bilan est revu à la baisse avec des travaux très 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 sérieux qui sont menés à Sarajevo. Et on arrive aujourd'hui à peu près à 110 000 morts, ce qui reste très considérable dans un pays, je le rappelle, qui comptait avant le conflit un peu plus de 4 millions d'habitants. Et puis l'autre chiffre important en Bosnie, c'est à peu près 2 millions de réfugiés et de déplacés internes, ce qui veut dire qu'à l'issue du conflit, à peu près un citoyen de Bosnie-Herzégovine sur deux n'habitait plus, ne vivait plus dans la ville ou le village ou le quartier où il habitait avant le début du conflit. Dans le cas du Kosovo, le bilan est lui aussi toujours incertain et contesté. On est grosso modo sur une évaluation de l'ordre de 10 à 12 000 morts, mais il y a eu par contre plusieurs vagues massives de départ. Il y a eu 800 000 à 1 million d'Albanais qui ont été déplacés au printemps 1999, et il y a toujours aujourd'hui à peu près 200 000 personnes qui ont été expulsées du Kosovo, qui en sont parties, principalement des Serbes et des Roms. Dans le cas de la Macédoine, on revient à des chiffres plus modeste, si l'on peut dire, on est sur un bilan de l'ordre de 200 à 300 morts. Alors, tout de suite, pour poser la problématique et faire sentir à quel point cette problématique est contemporaine, s'agissait-il de guerre civile ? Il y a quelques jours, la semaine dernière, la nouvelle présidente de la République croate, Kolinda Grabar-Kitanovic, qui a été élue le 11 janvier, s'est rendue donc la semaine dernière au siège des associations d'anciens combattants croates et leur a dit « Je ne permettrai pas que quiconque dise que la guerre était une guerre civile ». Cela montre bien à quel point la terminologie est importante encore aujourd'hui et demeure un objet de polémique. Ce qui est certain également, c'est qu'il s'agit d'un conflit, deux conflits, excusez-moi, au pluriel, qui ont un caractère local, et une des stratégies importantes de la communauté internationale a été celle du containment, a été de faire en sorte que ces conflits ne s'étendent pas, et de ce point de vue-là, le succès a été au rendez-vous, puisque si on avait pu craindre à certains moments que ces conflits yougoslaves embrasent une région beaucoup plus grande, cela n'a pas été le cas. Un conflit local néanmoins, ou des conflits locaux, mais des conflits locaux qui ont eu très vite, dès le départ, je dirais, une dimension internationale, une dimension globale évidente, avec, dès la guerre de Bosnie et encore plus lors de la guerre du Kosovo, un aspect d'un affrontement, d'un nouvel affrontement planétaire se mettant en place, principalement entre les États-Unis et la Russie. Alors, il a pu être dit, ou l'on peut penser, c'est un des points que je vais essayer de discuter, il a pu être dit que ces guerres yougoslaves fournissaient en quelque sorte le modèle de conflits européens post-guerre froide, des conflits dont l'actualité, ces jours-ci encore, on peut penser bien sûr à l'Ukraine, est terriblement d'actualité. Ce que je vais essayer de faire dans ma présentation, c'est d'essayer de répondre à quelques questions sur ce que ces guerres étaient et ce qu'elles n'étaient pas. Alors mon premier point, ça sera tout d'abord d'inscrire ces guerres dans l'histoire. Je crois qu'il est très important d'être bien conscient du fait que ces guerres interviennent à un moment particulier, elles interviennent après la chute du mur de Berlin, après l'affrontement, la fin de l'affrontement bipolaire entre le bloc soviétique et le bloc occidental. Guerre froide dans laquelle la Yougoslavie occupait une position très particulière, puisque la Yougoslavie, depuis la rupture de 1948 entre Tito et Staline, justement échappait à la guerre froide, ou était une sorte de pont dans un monde divisé. Et en quelque sorte, avec la chute du mur de Berlin, la Yougoslavie, celle de Tito, a perdu son intérêt stratégique d'être un pont dans ce monde bipolaire. De plus, ce régime yougoslave avait deux grandes caractéristiques. C'était un État yougoslave qui avait donc pour but, pour raison d'être, pour idéologie fondatrice, l'unité et la fraternité des différents peuples sud-slaves. Unité et fraternité, c'était le slogan officiel du régime. Donc un État qui se voulait yougoslave, qui se voulait une solution proposée à l'ensemble des peuples concernés, mais un État qui existait également comme fédération socialiste. Or, ce contexte historique est celui d'un effondrement des régimes communistes ou socialistes partout en Europe, avec donc une carence idéologique, ce qui explique la conversion massive des élites communistes à d'autres types de discours, et l'autre ressort idéologique qui va être trouvé, qui va se présenter, va bien souvent être le nationalisme. Autre point très important sur le contexte global dans lequel ces guerres éclatent, celui de la crise économique. La Yougoslavie a connu à l'époque de Tito un fantastique développement économique, la reconstruction de l'après-guerre d'un pays qui avait été dévasté durant la Seconde Guerre mondiale, et un développement très important, développement qui s'était largement financé par des crédits, la Yougoslavie ayant une capacité assez impressionnante à jouer sur les deux tableaux. C'est le seul pays socialiste à avoir bénéficié du plan Marshall, mais c'est également un pays qui, lorsque les relations se sont à peu près rétablies avec l'URSS, a également eu une capacité à obtenir un soutien soviétique dès, disons, la normalisation intervient dès le début des années 60. Or, cet État était donc un État qui avait eu très largement recours aux emprunts, y compris aux emprunts du FMI, auprès du FMI, et qui s'est retrouvé dans une situation de crise de plus en plus approfondie dans les années 80. Ce contexte de crise est intervenu alors que l'État, depuis 1974 avait connu une évolution confédérale. La solution proposée par Tito, qui était déjà très âgé, vieillissant, lors de la réforme constitutionnelle de 1974, avait été de renforcer considérablement les pouvoirs des 6 républiques fédérées, également des 2 provinces autonomes qui étaient rattachées à la République de Serbie, mais qui avaient de fait des compétences presque équivalentes à celles des républiques, ce qui fait que dans le contexte de crise économique et de crise idéologique liée à la disparition globale des régimes socialistes, il n'y a pas eu une bureaucratie yougoslave, mais différentes bureaucraties républicaines qui ont toutes joué des stratégies de survie, de maintien au pouvoir, stratégies qui immanquablement sont entrées en concurrence les unes avec les autres. Alors, il a souvent été dit en Occident, dans le traitement journalistique, mais peut-être même parfois dans certains regards plus académiques, que ces guerres renverraient à un passé de haine qui serait la résurgence de haine ancestrale, atavique. C'est un point de vue, pour le coup, très idéologique, qui ne repose pas sur grand-chose. Il est extrêmement difficile de retrouver dans l'histoire plus ou moins lointaine, traces d'affrontements, par exemple, entre Serbes et Croates. Ces affrontements n'ont pas existé à l'époque moderne. Alors, les Croates et les Serbes appartenaient à différents ensembles géopolitiques. Les pays croates se sont trouvés, dès la fin du XVIIIe siècle, inclus dans l'État des Habsbourg. La Serbie faisait à l'époque partie de l'Empire ottoman, et puis la Serbie, au début du XIXe siècle, est devenue autonome, puis indépendante, et a connu, au cours du XIXe siècle, une progressive extension territoriale, mais cela n'a pas entraîné de conflictualité particulière entre Serbes et Croates. Il n'y a aucun exemple que l'on puisse trouver. Le seul moment, le premier moment dans l'histoire où Serbes et Croates se soient fait la guerre, c'est finalement la Première Guerre mondiale, puisque la Serbie était alliée de la France et de la Grande-Bretagne, tandis que les soldats croates étaient mobilisés sous l'uniforme austro-hongrois. Mais l'on peut donc penser, conclure assez objectivement, que cette guerre était une guerre agie par des grandes puissances extérieures aux enjeux locaux des Balkans, et que ces peuples des Balkans sont trouvés pris dans un jeu et des intérêts qui les dépassaient fort largement. Donc, je rejette tout à fait cette idée de haine atavique. Les seuls moments, pour faire une parenthèse, les seuls moments où il y a eu des violences importantes et des déplacements de population et des phénomènes de nettoyage ethnique, ce sont des choses qui sont liées au démembrement progressif de l'Empire ottoman. Donc, ce type de conflit au XIXe siècle, ces violences, vont beaucoup plus affecter des régions qui se trouvent aujourd'hui en Grèce, en Turquie, que dans l'espace yougoslave. Alors, bien sûr, il y a eu aussi, notamment durant les guerres balkaniques de 1912-1913, des exemples de violences, mais ces violences concernent principalement le démembrement de l'Empire ottoman, les pires rivalités, par exemple, étant autour du contrôle de la Thrace ou de la Macédoine, avec des affrontements entre Grecs, Bulgares, et puis ensuite, bien sûr, les guerres gréco-turques. Donc, je rejette l'idée de guerre qui serait la résurgence de haines historiques anciennes. Par contre, il est certain que ces guerres ont été menées ou ont été justifiées par des arguments historiques. Dans les guerres des années 90, les protagonistes ont voulu rejouer des épisodes du passé utilisés à des fins de mobilisation des opinions publiques intérieures. Alors là, c'est bien évidemment tout d'abord la mémoire de la Seconde Guerre mondiale qui a été mobilisée. On l'a vu même au niveau des symboles, de la réutilisation de certains termes, comme les deux plus connus étant ceux d'Oustachie et de Tchetnik. Alors pour expliciter ces deux termes, les Oustachis, cela fait référence à l'État indépendant de Croatie proclamé en 1941 dans une partie du territoire de l'actuelle Croatie, plus la Bosnie-Herzégovine, une partie du territoire actuel de la Croatie n'était pas concernée puisqu'il avait été annexé par l'Italie mussolinienne. Toute la côte d'Almate et l'Istrie, enfin l'Istrie était déjà italienne en 18 et la Dalmatie a été accordée à Mussolini. Cet État indépendant de Croatie était un État collaborationniste, comparable à d'autres épisodes, on peut surtout penser à la Slovaquie, mais il faut tout de suite préciser que cet État, s'il a obtenu S'il a joui du soutien d'une partie de la population croate, n'a jamais fait consensus dans la population croate, et d'un point de vue strictement numérique, on sait aujourd'hui de manière tout à fait certaine que ce sont les Croates qui ont fourni le plus grand nombre de partisans aux armées des partisans de Tito. Donc la guerre en Croatie a été une guerre, la Seconde Guerre mondiale a été en Croatie une guerre civile, mais une guerre politique entre deux options politiques. La collaboration avec Hitler ou la résistance, pas du tout une guerre ethnique. Les tchétniques, pour leur part, alors le terme de tchétnique est un terme ancien qui apparaît notamment dans les guerres anti-turques et puis durant les guerres balkaniques. Ça vient de tchéta. Tchéta, ça veut dire la bande, la troupe, l'escouade, le petit groupe de combattants autonomes, disons. Donc les membres d'une tchéta sont des tchétniques, des tchétnitsi. Ce terme a été repris durant la Seconde Guerre mondiale par les combattants de la résistance royaliste serbe, de l'armée yougoslave dans la patrie, qui était la branche légaliste, on va dire, de la résistance, qui reconnaissait le gouvernement royal en exil à Londres. Le problème est qu'ensuite, bien sûr, durant la guerre, cette résistance a été très vite contrée puis dépassée par la résistance communiste des partisans de Tito. Mais il est certain que, dans les années 90, utiliser ces termes d'oustachi et de tchétnik était bien sûr une manière de convoquer ce passé, puisqu'en convoquant ces termes-là, ce à quoi l'on voulait surtout faire référence, c'était les crimes effectivement commis par les uns ou par les autres. Il s'agissait de mobiliser, par exemple, les Serbes en agitant le souvenir traumatique des crimes commis par les oustachis, et l'inverse marchait également, bien sûr, pour les Croates ou pour les Bosniaques qui avaient pu subir des crimes commis durant la Seconde Guerre mondiale par des tchétniks. On est donc dans un contexte d'utilisation, de réactivation symbolique de l'histoire, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il y ait de continuité idéologique et encore moins organisationnelle avérée entre les oustachis et les tchétniks contemporains et des phénomènes plus anciens. D'ailleurs, dans la préparation, dans le basculement idéologique qui a permis, dans l'évolution idéologique qui a permis le basculement dans la guerre, dans la seconde partie des années 80, si vous voulez, au moment où la Yougoslavie était déjà en crise avant d'être en guerre, il y avait eu d'importantes campagnes idéologiques, notamment du côté serbe, d'exhumation des victimes des oustachis. Il s'agissait donc clairement de mobiliser idéologiquement la population sur l'idée que cette vie commune qui avait été le fondement de l'État socialiste fédéral, en réalité, reposait sur un mensonge, reposait sur l'oubli des crimes commis durant la Seconde Guerre mondiale et que donc la vie commune n'était pas possible. Il s'agissait de convaincre les populations du caractère inéluctable d'une nouvelle guerre. Dans ces utilisations de l'histoire, il y a d'autres moments ou d'autres épisodes qu'il faudrait citer. Là, je vais passer à un conflit plus tardif, le conflit du Kosovo, où on a beaucoup parlé du souvenir de la bataille de Kosovo-Pol en 1389. Mais là aussi, alors cette bataille de Kosovo en 1389, on peut la raconter de bien des manières différentes. Déjà, l'issue de la bataille n'est pas tout à fait claire. On sait dans le journal du Bourgeois de Paris, pour revenir au XVe siècle, au début du XVe, à la fin du XIVe siècle plutôt, excusez-moi, que les cloches de Notre-Dame ont sonné pour saluer une victoire des chrétiens. Puis il s'est avéré qu'en fait, cette victoire des chrétiens était un petit peu incertaine. Mais c'était la nouvelle qui était arrivée de la bataille de Kosovo-Polje que rapporte le Bourgeois de Paris dans son journal. Donc une bataille à l'issue plutôt incertaine, mais surtout une bataille qui a opposé deux coalitions, d'un côté les Ottomans, mais qui avait également beaucoup d'alliés balkaniques, et de l'autre une coalition anti-ottomane qui réunissait un grand nombre de princes et de seigneurs balkaniques. Alors le commandement de la coalition chrétienne avait été confié au prince serbe Lazar Hrebeljanović, mais il y avait également des Albanais qui combattaient aux côtés de Lazar Hrebeljanović ou le roi de Bosnie, Tvrtko. Donc on n'est pas du tout dans cette image d'une bataille des Serbes contre les Ottomans. La réalité était fort différente. De plus, si le souvenir de la bataille de Kosovo a toujours été présent, notamment dans la tradition de l'Église orthodoxe serbe, où l'anniversaire de la bataille, le 28 juin, a toujours donné lieu à des cérémonies religieuses, à l'office des morts, l'opelo, l'utilisation politique de la bataille est un phénomène tout à fait contemporain. La première fois où la mémoire de la bataille est convoquée à nouveau pour justifier des revendications politiques et du coup est célébré en très grande pompe, c'est pour le cinquième centenaire en 1889. Ce qui veut dire que jusqu'en 1889, le soutien de la bataille de Kosovo n'était pas en réalité un projet politique. Ça l'est devenu quand le royaume de Serbie envisageait de s'étendre au Kosovo. On est donc là, encore une fois, dans l'utilisation d'épisodes historiques. Dernier mot pour parler toujours et rester sur le Kosovo. De l'autre côté, du côté albanais, la guerre du Kosovo et le conflit ultérieur de Macédoine ont été clairement définis, présentés comme l'occasion d'engager une revanche historique, une revanche sur les injustices de l'histoire, donc concrètement sur l'injustice qui aurait été commise en 1912 à l'issue des guerres balkaniques lors de la conférence des ambassadeurs et du traité de Bucarest, qui s'est soldée par la création d'un État d'Albanie, mais d'un État d'Albanie qui n'incluait qu'à peu près la moitié des Albanais des Balkans, laissant l'autre moitié des Albanais des Balkans soit sous contrôle serbe, soit sous contrôle monténégrin, soit sous contrôle grec. Donc là encore, chez les Albanais, chez les nationalistes albanais, ce discours historique était extrêmement présent, mais il s'agit bien d'une construction idéologique à partir d'arguments historiques. Et cette reconstruction de discours idéologique, il est très important, de discours historique au profit d'un projet politique contemporain, il est très important de souligner qu'elle a été effectuée à peu près partout par des élites qui étaient, à une époque encore très récente, des élites communistes et qui ont cherché à construire un autre type de discours pour justifier d'autres projets politiques, mais surtout pour justifier leur maintien au pouvoir. C'est évident dans le cas serbe avec Slobodan Milošević, qui était un apparatchik de seconde catégorie qui va réussir une ascension politique rapide dans les années 1980, mais du côté croate, c'est vrai également. Franjo Tudjman, le premier président croate, très nationaliste, était tout de même général des partisans. Alors, il s'était engagé très très jeune dans les partisans, mais il était général de l'armée populaire yougoslave. Donc, c'était absolument pas un moustachi. Et ce n'était pas non plus quelqu'un qui était extérieur au régime, même si lui, dès les années 70, avait commencé à se dissocier en reprenant des arguments nationalistes. On est donc sur un phénomène idéologique de conversion des élites. Et de ce point de vue-là, l'actualité brûlante de ce passé récent, je crois, est toujours à l'œuvre. On peut observer certains phénomènes idéologiques assez comparables dans la Russie poutinienne d'aujourd'hui. Ces enjeux de mémoire, d'ailleurs, sont toujours des enjeux majeurs qui se cristallisent aujourd'hui sur les politiques monumentales. Il y a toujours, encore aujourd'hui, aussi bien de la Slovénie à la Macédoine, d'importants conflits politiques et idéologiques autour des monuments. Alors, les monuments aux victimes ou aux héros des dernières guerres, ou bien encore plus aux héros ou aux victimes de la Seconde Guerre mondiale, voire même à ceux de la Première Guerre mondiale, dont la mémoire avait été un petit peu mise sous le boisseau à l'époque de la Yougoslavie de Tito, mais qui est à nouveau exaltée dans la Serbie contemporaine. Donc, des guerres inscrites dans l'histoire, des guerres justifiées au nom de l'histoire, mais des guerres qu'il ne faudrait surtout pas comprendre comme l'ultime manifestation d'une sorte de fatalité historique qui voudrait que les peuples des Balkans se fassent en permanence la guerre. Mon second point, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, s'agit-il de guerre civile? Alors, j'ai cité cette nouvelle présidente croate dans le discours officiel croate. Le nom, l'appellation de la guerre, c'est la guerre patriotique, Domovinski rat. Et pour reprendre les typologies de notre colloque, du point de vue croate, la guerre des années 90 a été une guerre constructive, une guerre formatrice, puisqu'elle a permis l'émergence de l'État croate. Alors, reprenons, si vous le voulez bien, ces différents conflits. Parce que la chronologie est très importante. Le 25 juin 1991, la Croatie et la Slovénie proclament leur indépendance après la tenue d'un référendum. Cette indépendance, en même temps, n'est pas reconnue tout de suite. Les diplomates européens, notamment, vont négocier un moratoire et les indépendances ne seront reconnues que le 23 décembre. Ce qui veut dire que durant toute cette période cruciale de l'été et de l'automne 1991, on est dans une situation où la légitimité politique est incertaine. La Croatie se considère comme un pays indépendant, mais elle n'est pas reconnue comme telle par la communauté internationale. Et du point de vue de ce qui reste de la fédération, là aussi, l'indépendance n'est pas du tout actée. Ce qui fait que l'armée populaire yougoslave va intervenir directement dans ce conflit croate. Elle va intervenir de manière importante. Il y aura des bombardements jusqu'à Zagreb, jusqu'au palais présidentiel. Il y aura surtout le siège de la ville de Vukovar en septembre, octobre, novembre 1991. La ville tombe le 18 novembre 1991. Et c'est la première, le premier siège d'importance de ces guerres. Le siège de Vukovar a été très largement mené par des appelés de l'armée populaire yougoslave. Deux remarques par rapport à cela. Tout d'abord, pour le discours officiel croate, l'intervention de l'armée populaire yougoslave s'apparentait à une agression extérieure, puisque la Croatie considérait qu'elle était indépendante. Donc l'armée populaire yougoslave, qui venait physiquement de Serbie, de Bosnie ou du Monténégro, était une force d'invasion, une force d'agression extérieure. Mais du point de vue de l'armée populaire yougoslave, cette sécession croate n'étant pas actée, n'étant pas légalement fondée, il s'agissait d'un conflit intérieur, on pourrait presque dire d'une opération de police visant à réduire des séparatistes. Seconde remarque, l'armée populaire yougoslave était une institution très puissante, très particulière dans la Yougoslavie de Tito. On en parlait parfois comme de la 7e République, qui avait donc ses propres organisations du Parti communiste, son propre... c'était un monde en soi. Et cette armée était une armée où toutes les communautés nationales, tous les peuples étaient représentés. Le général qui a commandé les bombardements du palais présidentiel de Zagreb était ethniquement croate. Les officiers de marine qui ont commandé les navires, qui ont bombardé un petit peu les villes du littoral, étaient également des officiers de marine croate. Des officiers de marine serbe, il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Mais ces officiers de l'armée de terre ou de la marine étaient avant tout fidèles à des choix politiques qui étaient leur attachement à la Yougoslavie et également à un régime socialiste, puisque l'armée était véritablement la citadelle du communisme yougoslave. Beaucoup plus, pour eux, c'était des critères beaucoup plus importants qu'une éventuelle fidélité ethnique ou nationale. Dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, le second conflit, là aussi, la chronologie est importante. La Bosnie devient indépendante à la suite d'un référendum qui a lieu le 29 février et le 1er mars 1992. Et les combats commencent véritablement le 6 avril. Le 6 avril, le jour même où la Bosnie-Herzégovine est reconnue par la quasi-totalité de la communauté internationale comme un État indépendant et où elle est admise aux Nations Unies. Ce qui veut donc dire que là, on est dans le cas d'un pays indépendant confronté à une guerre, alors une guerre intérieure ou pas. On sait que l'armée yougoslave, cette armée populaire, après la trêve et l'arrêt provisoire des combats en Croatie, avait concentré d'énormes moyens militaires en Bosnie-Herzégovine, notamment autour de Sarajevo. Dès décembre 1991, janvier 1992, les positions militaires qui ont permis le siège de Sarajevo étaient déjà établies avec les batteries de canon, les blindés, toutes les positions étaient déjà tenues. Mais d'un point de vue, tactique, cet armement a été transféré avant le début de la guerre de l'armée populaire yougoslave à l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, nouvellement formée, ce qui permettait de dire que l'armée yougoslave n'était pas impliquée puisque les armes appartenaient à la nouvelle armée de la nouvelle République serbe de Bosnie-Herzégovine. Alors pour le coup, ça amène à toucher un point qui est un point très important, un point constitutionnel. La Yougoslavie, la Constitution 1974 notamment, prévoyait explicitement le droit à la sécession des entités fédérées, ce qui veut dire que sur le plan du droit, la Croatie ou la Bosnie ou la Slovénie avaient le droit de proclamer, selon certaines modalités, de proclamer leur sécession. Mais le système, le fédéralisme yougoslave reposait sur deux aspects, les droits des républiques et les droits des peuples constitutifs, selon la terminologie officielle. Or, le peuple croate ou le peuple slovène ou le peuple serbe avait ce statut de peuple constitutif à l'échelle de la fédération. Ce qui veut dire que les arguments juridiques des Croates disant « nous voulons faire sécession » se sont heurtés aux arguments juridiques des Serbes de Croatie qui disaient « nous, en tant que partie du peuple serbe vivant en Croatie, nous ne voulons pas faire partie d'un État indépendant, nous voulons rester en Yougoslavie ». Dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, les arguments ont été similaires. La République a majoritairement, par le vote principalement des Bosniaques et des Croates, voté son indépendance, mais les Serbes de Bosnie-Herzégovine ont dit « nous ne sommes pas concernés par cette décision qui viole nos droits de peuple constitutif ». On est donc sur un conflit de légalité, et là je crois que les meilleurs juristes sont incapables de dire qui avait raison. Au bout du compte, les deux arguments sur un plan strict du droit se tenaient parfaitement. En tout cas, ça repose la question, est-ce que la guerre de Bosnie était une guerre civile ? Là encore, on parle dans le discours officiel bosniaque, bosnien, on parle d'une agression, d'une guerre d'agression contre la Bosnie-Herzégovine, tandis que les nationalistes serbes vont dire non, il y a trois peuples qui n'étaient pas d'accord sur la vision de l'avenir du pays, la Bosnie devait-elle être indépendante ou pas, et ces trois peuples, aux droits aussi légitimes les uns que les autres, se sont opposés. Sur le plan des symboles, la guerre s'est beaucoup jouée sur les symboles, il est important de souligner qu'autant les combattants et les nationalistes serbes et croates de Bosnie-Herzégovine ont utilisé les arguments nationalistes, et encore plus qu'en Croatie, c'est en Bosnie-Herzégovine où on a vu ressurgir les Tchetniks, les Oustachis, avec parfois des choses... Enfin, avançons. Par contre, du côté bosniaque, le discours était un petit peu plus compliqué, avec deux niveaux. Deux niveaux de discours pas toujours simples à concilier. D'une part, un discours ethno-national, celui du peuple bosniaque, alors le peuple bosniaque étant les gens de langue, ce qu'on appelait la langue serbo-croate, de tradition musulmane, donc des gens convertis depuis la conquête ottomane, depuis 3, 4 ou 5 siècles, ce qui veut dire qu'on pouvait être en Bosnie-Herzégovine musulman au sens national. C'est une des particularités, on pouvait être musulman et athée. Musulman et athée, ça voulait juste dire qu'on était de tradition musulmane, mais qu'après on n'était pas à titre personnel pratiquant. Ce terme de musulman au sens national a disparu, on parle aujourd'hui de bosniak pour désigner cette communauté. Mais il y avait donc un registre de légitimité qui était celui de l'identité bosniak musulmane menacée par les appétits des deux voisins serbes et croates, mais aussi un autre registre de légitimité qui était celui de la revendication d'une Bosnie unitaire. Et pour cela, sachant que la Bosnie avait été une grande terre de partisans et de résistance, la symbolique utilisée par le gouvernement de Sarajevo était très largement la symbolique des partisans de la Seconde Guerre mondiale, avec des slogans du type « la liberté ou la mort », enfin « mort aux fascistes, liberté pour le peuple », c'était les slogans exactement de la Seconde Guerre mondiale réactivés dans la guerre de 92-95, et la participation, peut-être pas massive numériquement, mais symboliquement importante, de combattants qui n'était pas bosniaque dans le camp de Sarajevo. Le général qui a défendu Sarajevo face aux nationalistes serbes était lui-même serbe. Mais politiquement, il avait fait le choix d'être fidèle à l'idée d'une Bosnie, ou à l'illusion, on peut en discuter, en tout cas à l'idée d'une Bosnie multinationale et d'une Bosnie unitaire. J'en viens, je passe un petit peu pour avancer, j'en viens au troisième conflit important, le conflit du Kosovo. Ce conflit est intéressant parce qu'il a une longue histoire. Déjà, sur un plan symbolique, les Albanais se sentaient beaucoup moins impliqués que les Serbes, les Croates, ou les Monténégrins ou les Macédoniens dans l'État qui s'appelait la Yougoslavie. Yougoslavie, ça veut dire le pays des Slaves du Sud. Or, les Albanais ne sont pas Slaves. Donc, il y avait donc, sur un plan symbolique, ils se sentaient naturellement moins impliqués dans cet État. Il y a eu... ensuite, il y avait la réalité d'un sous-développement massif, même si... pour en discuter très longuement, mais l'expérience yougoslave a loin d'avoir été uniquement négative. Il y a une promotion de cadres politiques, intellectuels, économiques albanais au Kosovo ou dans les régions albanaises de Macédoine. Il y a eu une assez bonne intégration, mais qui a été remise en cause dès le tournant des années 80-90 du siècle dernier. Et Slobodan Milošević, justement, a utilisé la question du Kosovo pour ressouder un nouveau ou refonder idéologiquement un nouveau nationalisme serbe, ce qui, en réaction, a entraîné une sécession politique de la communauté albanaise qui a proclamé des institutions parallèles. Donc ça veut dire que dès le début de la décennie, les Albanais ne participaient plus aux institutions de l'État, n'envoyaient plus leurs enfants à l'école, n'allaient plus dans les hôpitaux publics, mais créaient des institutions parallèles. Alors est-ce qu'ils ont été mis à la porte, est-ce qu'ils ont choisi de partir ? La réponse, bien sûr, est contrastée. C'est les deux à la fois, hein. Les choses sont toujours un petit peu plus complexes, on veut bien le dire, mais néanmoins, il y avait la réalité de cette sécession de la société albanaise par rapport à l'État qui était toujours l'État serbe. Ce qui veut dire que le conflit a été longtemps un conflit politique et qu'il n'a pris un tournant militaire que lorsque il est apparu que les solutions politiques n'existaient pas. Le moment de bascule, c'est les accords de Dayton. les accords de Dayton-Paris en décembre 1995 qui mettent fin à la guerre de Bosnie-Herzégovine. Et certains négociateurs occidentaux évoquent auprès de Slobodan Milošević la question du Kosovo. Il répond immédiatement non. Le Kosovo, ça, c'est une autre affaire, c'est une question intérieure à la Serbie, ce qui voulait dire que l'idée d'une internationalisation du problème du Kosovo échouait et qu'il fallait donc trouver d'autres stratégies. Et l'autre stratégie, ça a été notamment l'apparition d'une guérilla. Une guérilla qui, pour le coup, est née, qui au début a regroupé extrêmement peu de gens, qui est née dans la diaspora, et ça c'est un point important à souligner, dans la diaspora suisse, un très petit groupe qui a réussi à s'imposer de manière d'ailleurs assez particulière et non sans violence. Cette guerre du Kosovo ensuite a très vite eu un aspect particulier, puisqu'au bout d'un an de combats, de guérillas, d'opérations anti-guérilla, la cavalerie est arrivée, l'OTAN a décidé de bombarder, au nom des violences se passant au Kosovo, de bombarder la fédération yougoslave de l'époque, c'est-à-dire la Serbie et le Monténégro, Serbie incluant naturellement le Kosovo. Donc là, on est, de manière évidente, dans le cadre d'une guerre civile, d'une guerre intérieure, qui devient un conflit mondial, puisque la coalition, enfin les forces de l'OTAN réunissaient un grand nombre de pays qui ont bombardé la fédération yougoslave. Pour le coup, là aussi, c'est une guerre sans libation, en tout cas sans déclaration de guerre et sans mandat des Nations Unies. Les bombardements commencent le 24 mars 1991, vont durer 78 jours et se terminent par une situation un petit peu particulière. Alors, j'insiste sur ce moment-là puisque ce conflit, qui part comme un conflit tout à fait intérieur, va prendre une dimension internationale et surtout est un conflit qui n'est pas terminé. Je le dirais de deux manières. Il n'est pas terminé parce que la situation, le statut du Kosovo n'est toujours pas définitivement admis. Le Kosovo a proclamé son indépendance, mais il n'est pas membre des Nations Unies. Cette indépendance est toujours contestée, non seulement par la Serbie, mais par un grand nombre de pays à travers le monde, y compris 5 États membres de l'Union européenne. Mais surtout, la solution qui a été trouvée pour mettre fin au conflit, c'est un compromis. C'est un accord technique. Ce sont les accords techniques de Kumanovo qui ont mis fin au bombardement. Il n'y a donc pas de capitulation, il n'y a pas eu de déclaration de guerre, il n'y a pas eu de traité de paix. On est sur un accord technique qui a permis l'arrêt des bombardements, produisant des documents internationaux assez bancaux, comme la fameuse résolution 1244, qui, en théorie, préserve les droits de la Serbie sur le Kosovo, résolution qui est toujours, d'un point de vue du droit international, en vigueur. Et ce conflit se poursuit toujours aussi par un autre aspect, c'est que ce conflit a été, je dirais, le point de départ de ce que l'on peut peut-être appeler une nouvelle guerre froide. En tout cas, il est évident que pour la Russie, l'humiliation de la guerre du Kosovo est un élément fondateur. Et dans le conflit actuel en Ukraine, c'était vrai pour la Crimée, c'est vrai pour le Donbass, l'exemple du Kosovo est répété en permanence par M. Poutine parce que les bombardements de l'OTAN ont été décidés contre la volonté de Moscou, sans accord avec Moscou, de manière perçue par Moscou comme totalement unilatérale. Donc le Kosovo a clairement ouvert une nouvelle phase des relations internationales et nous sommes, je crois, encore en plein dedans. Donc de ce point de vue-là, on est sur une guerre tout à fait intérieure, un conflit, disons, de guérilla dans des montagnes qui a pris très vite une dimension de guerre internationale. Alors pour aller vite, je crois que le temps passe. Mon troisième point, ça sera ces guerres, des guerres ethniques, des guerres religieuses, enfin toutes catégories, tout concept qui sont très souvent utilisées. Des guerres sauvages, pour reprendre l'intitulé de notre seconde partie d'après-midi, il a souvent été dit à propos de cela que ce n'était pas des guerres civiles, mais des guerres contre les civils. C'est un concept qui a été utilisé non seulement dans des débats polémiques, mais également dans les milieux académiques. Alors, je crois que toutes les guerres sont très largement des guerres contre les civils. Enfin, je pense que toutes les guerres, toutes celles qu'on a pu étudier au cours de ces trois jours, ont toujours commencé par faire comme victimes des civils, et souvent beaucoup plus de civils que de combattants. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'exception yougoslave. Par contre, ce que disait M. Marković, ce qu'évoquait tout à l'heure M. Marković, certaines pratiques particulières comme le viol ou le nettoyage ethnique, est-ce que ce sont des particularités de ces guerres? Je ferai deux remarques. Ça nécessiterait de longs débats, mais je ferai juste deux remarques. Tout d'abord, cette notion de guerre ethnique, il faudrait commencer par définir ce que c'est qu'une ethnie. Et Dieu sait que ce n'est pas une question simple qui pourrait nous emmener très tard. Dans l'usage courant occidental, il est évident, qui n'est pas, je ne parle pas en termes scientifiques, mais en termes de l'usage courant, terme d'ethnie, il est évident qu'aujourd'hui, cela a un sens très clair, il désigne un degré inférieur de développement. Les guerres ethniques, c'est des guerres, grosso modo, chez des sauvages, chez des sous-développés, chez des gens qui n'ont pas construit d'État-nation. C'est cela l'usage commun journalistique et très largement admis de l'idée de guerre ethnique. Guerre ethnique, il y a 50 ans ou 100 ans, on parlait de guerre tribale. On a juste changé les termes, mais les idées, les concepts sont exactement les mêmes et ils sont toujours aussi imprécis et imbibés, je dirais, d'une vision impérialiste de l'histoire. De fait, les Balkans se sont constitués à partir du XIXe siècle comme l'image d'une autre Europe, d'une Europe sauvage, d'une Europe marquée par un éclatement, alors là c'est la mosaïque, c'est la Macédoine, de peuples, de nations, de langues, quelque chose qui s'opposerait à la bonne Europe, celle d'État-nation en train de se développer. Si l'on examine l'histoire, on constate que des phénomènes comme le développement du royaume de Serbie, c'est exactement contemporain du Risorgimento italien, et le modèle du Risorgimento est très très souvent cité par les intellectuels serbes qui sont proches de la cour royale de Serbie. On est donc en réalité dans des mouvements nationaux qui sont totalement en phase avec ce qui se passe partout en Europe, mais la particularité va être, je pense, dans le fait que les Balkans, dès la fin du XIXe siècle, se trouvent placés en position de périphérie dominée, de périphérie sur lesquelles vont s'opposer les intérêts stratégiques contradictoires des grandes puissances. Alors, à l'époque, c'était principalement l'Autriche-Hongrie, la Russie, l'Empire ottoman en voie de dislocation, le malade de l'Europe en train d'entamer son agonie. Aujourd'hui, les grandes puissances ne sont plus les mêmes, mais enfin, quand on regarde la manière dont le Kosovo est utilisé comme un pion, éventuellement échangeable peut-être un jour contre la Crimée, dans Dieu sait quelle configuration, on n'est pas tout à fait sorti de cette même logique où le destin des Balkans est en réalité agi par des acteurs géopolitiques plus forts que les peuples locaux. Seconde remarque sur les viols. Ces viols ont été effectivement utilisés de manière assez systématique dans certains moments de la guerre et certains endroits de la guerre de Bosnie. C'est donc pas un phénomène généralisé. C'est pas un phénomène qui a été constaté de manière significative au Kosovo. Je ne parle pas du viol occasionnel d'un débordement de soldatesque ivre, mais du moment où le viol devient une stratégie acceptée, voire ordonnée par le commandement. Les viols n'ont eu ce caractère-là qu'à certains moments particuliers de la guerre de Bosnie, et je crois qu'il faut analyser ce que cela signifiait. Les peuples de Bosnie se différenciaient certes par des traditions religieuses différentes, mais parlaient la même langue. Il n'y a donc pas de sentiment d'extériorité ou de différence entre un Serbe, un Croate ou un Bosniaque. Violer des femmes bosniaques, c'était les violer pour qu'elles produisent des Serbes. Donc, c'est-à-dire qu'une femme bosniaque, et c'était comme ça, c'était le discours qu'utilisaient les violeurs. Donc une femme bosniaque pouvait, dans cette projection nationaliste, tout à fait porter des futurs soldats serbes. C'est comme ça que le viol était défini et justifié. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi ce type de violence ? Et je crois que ce type de violence était nécessaire aux yeux des acteurs de la guerre et des acteurs idéologiques qui ont justifié la guerre, parce que la grande question était celle de créer la haine, une haine qui n'existait pas de manière naturelle. La Bosnie, pour revenir à ce pays, était le pays yougoslave par excellence. La Bosnie venait d'accueillir, quelques années avant le début de la guerre, les Jeux Olympiques de Sarajevo en 1984, qui est un petit peu à la fois le moment de plus grande gloire et, pourra-t-on dire, le chant du cygne de la Yougoslavie socialiste. Les Jeux Olympiques de Moscou avaient été boycottés par la moitié du monde, mais à Sarajevo, tout le monde était là, le monde entier était venu à Sarajevo, au cœur de la Yougoslavie. Et tout, naturellement, tous les habitants de la Bosnie, serbes comme croates ou comme bosniaques, communiaient dans ce même souvenir, tout comme ils avaient soutenu la même glorieuse équipe de football en 1990. Il fallait donc créer de la distinction, créer de la haine, et pour cela, il fallait créer l'irréversible. Et quoi de plus irréversible qu'un viol, quand ce viol est systématisé. Il y a des travaux qui ont été développés là-dessus, sur ce mode de cohabitation. Je pense notamment à un anthropologue français, Xavier Bougarel, qui a beaucoup mis en avant la notion de komşiluk. Komşiluk, c'est un mot turc qui désigne le voisinage. Dans le bon voisinage normal en Bosnie-Herzégovine, on savait que tel voisin était de tradition catholique ou de tradition musulmane, et, ou ou orthodoxe, et les règles du bon voisinage consistaient à aller lui souhaiter ses fêtes, aller lui souhaiter les fêtes de Pâques, de Noël, ou d'aller avec lui partager le repas du jeûne de Ramadan. Ce komchilouk régissait la vie sociale, mais, explique Xavier Bougarel, le komchilouk peut se transformer très facilement en son envers, parce que dans cette logique du voisinage, chacun sait qui est qui. Et en réalité, le bon voisinage, le bon komchilouk, dépend de manière structurelle de l'État central. Quand l'État central dit « vous devez être bon voisin », ça marche très bien. Mais si l'État central envoie un autre message consistant à dire « non pas il faut tuer les voisins », ça personne ne l'a jamais dit, mais les voisins risquent de nous tuer, parce que c'est toujours la peur qui est première, c'est pas la mobilisation positive, c'est la mobilisation négative, on prend les armes par crainte de voir les autres les prendre. C'est la peur qui est première dans les phénomènes nationalistes. Et ce komchilouk se transforme très facilement en une épouvantable machine à tuer. Alors donc, y a-t-il un archaïsme de ces guerres yougoslaves? Par certains côtés, oui, puisqu'effectivement, ces guerres ont pu utiliser des souvenirs historiques, ont pu utiliser certaines particularités des sociétés balkaniques, mais je pense, et ce sera ma conclusion, qu'il s'agit au contraire de guerres extrêmement modernes. Des guerres modernes parce qu'elles sont insérées dans un monde globalisé, déjà fort largement. Les diasporas ont joué un rôle très important dans ces guerres, à tous les niveaux. J'ai parlé de la guérilla albanaise de Lucheka, qui est née dans le canton de Lucerne, en Suisse, et dont les centres de commandement ont toujours été situés en Suisse. Le principal général croate, Ante Gotovina, ne venait pas de l'armée populaire yougoslave. Il avait fait sa carrière militaire dans la Légion étrangère française. Il a connu une des promotions militaires les plus fulgurantes. Il a quitté la Légion comme caporal, il est rentré en Croatie 10 ans plus tard, non sans avoir entre-temps commis quelques braquages à Paris, et il s'est retrouvé général de l'armée croate. Mais on est donc dans des guerres qui sont des guerres totalement globalisées, dans un monde où ces informations circulent de plus en plus vite. Alors que les guerres soient télévisées, ça n'a pas été la première. Par contre, la guerre de Yougoslavie est celle où l'usage d'Internet s'est généralisé. Ce qui veut dire que les informations durant cette guerre de Yougoslavie ont circulé particulièrement vite. Les propagandes de guerre, qui sont là aussi un phénomène aussi vieux que la guerre elle-même, ont joué un rôle très important avec la capacité de rayonnement des médias de masse. Et ces propagandes de guerre, ça a notamment été celle de l'OTAN qui a érigé les violences commises contre les Albanais au Kosovo comme l'archétype de la violence universelle. Alors qu'objectivement, sans entrer dans un décompte macabre, il y a eu beaucoup plus de crimes commis en Bosnie qu'au Kosovo, mais on en a beaucoup moins parlé. Donc des guerres qui s'inscrivent dans ce contexte, sur le plan des symboles, on pourrait aussi évoquer beaucoup d'éléments d'une sorte de culture populaire universelle qui ont été très présents dans ces guerres. L'entité séparatiste des Serbes de Bosnie, la Krajina, avait pour capitale Knin, les unités spéciales. Serbes s'appelaient les Kninja, en référence aux tortues ninja. Et des collègues m'ont parlé de milices à Kinshasa qui s'appelaient les milices Kosovo. Parce que faire référence au Kosovo, dans le contexte, 5 ou 6 ans après, d'une guerre congolaise, c'était particulièrement effrayant. On est donc dans des guerres d'un monde totalement ouvert. Des guerres également qui auraient dû être... alors, encore une fois, la DRDDR, on le dit toujours, mais surtout des guerres dont on avait la prétention qu'elle serait suivie par la justice. Et en théorie, ces guerres yougoslaves, avec la création d'outils particuliers comme le tribunal pénal international, auraient dû être fondatrices d'un nouveau droit de la guerre, signé la fin de l'impunité. Or, pour le coup, le bilan du TPI est particulièrement accablant, puisque il y a 2 ans, au cours de l'hiver et du printemps 2012-2013, le TPI, les chambres d'appel du TPI ont cassé toutes les condamnations de première instance. C'est-à-dire que le TPI avait été fondé sur un principe qui était celui de la responsabilité de commandement, pour ne pas juger des exécutants mais des responsables, et dans sa nouvelle pratique, le TPI a conclu qu'il ne reconnaissait pas la responsabilité de commandement. Donc là, il y a un fiasco assez grave, et je crois qu'il y aura de lourdes conséquences de la justice internationale, mais enfin, pour le coup, il n'est pas imputable au peuple yougoslave eux-mêmes. Dernière chose, bien évidemment, ces guerres sont aujourd'hui, à leur tour, utilisées comme référence, je l'ai déjà dit, dans le cas de l'Ukraine, mais je crois que ce sont clairement marqué ce conflit local, contenu dans un premier temps, a clairement marqué le début a soldé la fin de la guerre froide et a ouvert une nouvelle ère dans les relations internationales. Voilà, je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup, on a vécu tout cela, et sans l'avoir vécu, enfin en ce qui me concerne en tout cas, c'est infiniment plus compliqué que dans mon souvenir. Et alors est-ce que c'est une guerre civile, enfin des guerres civiles ou non, en vous écoutant, je conclurai en disant que ce sont des guerres civiles devant les mânes du maréchal Tito, il doit y considérer comme des guerres civiles, et des guerres aux yeux de ses héritiers, enfin, du moins madame, dont il est non compliqué, de Croatie. Donc, bon, ça fait partie de l'objet, enfin, de ce colloque, de savoir de quoi on parle, et il est clair qu'il y a des situations, disons, sinon intermédiaires, du moins fluctuantes, qui ne permettent pas de décider conceptuellement que c'est ceci ou cela. Alors, nous poserons des questions tout à l'heure, ceux qui voudront en poser, et nous passons directement à une situation où, là également, le concept de guerre civile s'applique d'une manière, enfin avec délicatesse, dirons-nous, pour être modéré. Vous avez la parole, et vous êtes le dernier.
Oui, donc un cas africain pour terminer. Je remercie Monsieur Bechler de m'avoir invité. Je dois dire que l'exposé qui a précédé fait écho très souvent à ce que je vais essayer d'expliquer. Donc j'ai donné comme sous-titre aux guerres civiles de la région des Grands Lacs les mentions des jeux politiques et identitaires impliqués. Je dois dire aussi que depuis que j'ai suivi ce colloque, depuis mercredi, il y a eu plusieurs fois où je me suis trouvé tout à fait en phase. L'Afrique n'est pas sur une autre planète. Et j'aurais pu aussi évoquer des révoltes anticoloniales représentant un mouvement paysan et social avec des prophéties, des rois cachés, etc. au début du XXe siècle au Rwanda et au Burundi. Donc la région dont je parle, je crois qu'elle est affichée pour l'essentiel. Voilà une carte de géographie. Donc il s'agit du Rwanda et du Burundi, deux pays à peu près de la taille de la Belgique, pour situer les choses. Mais les problèmes évoqués concernent aussi l'est du Congo vers l'ouest et l'Ouganda au nord, un peu moins la Tanzanie à l'est. Donc voilà l'espace. Alors les conflits sont multiples et il est hors de question que je commence à évoquer chaque conflit. Je vais me centrer surtout sur le Rwanda et le Burundi, et en fait surtout sur le Rwanda. Mais je rappelle rapidement qu'il y a toute une série de crises violentes dans cette région depuis pratiquement plus d'un demi-siècle. Au Rwanda, en novembre 59, en été 61, au début 64, au début 73, en d'octobre, alors surtout ce que tout le monde a en tête, d'octobre 1990, au début 93, puis avec reprise en avril, entre avril et juillet 1994, au Rwanda, dans chaque cas, des crises où c'est surtout, alors j'expliquerai ces mots après, je suis contente de les prononcer, où sont massacrés des Tutsis, ce qui n'exclut pas qu'il y a des dérapages, si on peut dire, ou tout, l'autre catégorie étant Hutu, qui sont tués, si on peut dire, par erreur ou en représailles. Au Burundi, violences analogues, en octobre 1965, mai-juin 72 surtout, et cette fois-ci surtout contre des Hutus. En octobre 1993, et puis pratiquement jusqu'en 2003, 10 ans de guerre civile, des tueries de Tutsis, comme au Rwanda, mais suivies de massacres massifs de Hutus, etc. Je ne peux pas rentrer, mais, et puis des conséquences donc sur le Congo oriental. L'énumération que je fais de ces violences, avec chaque fois les mots Hutu et Tutsi qui désignent deux groupes de ces sociétés africaines, conduit rapidement dans la tête de tout le monde, je pense, au cliché facile. On est devant une barbarie attardée, des conflits sauvages, donc, en fait, pour dire des conflits ethniques ou tribaux, et c'est-à-dire des massacres normaux, quelque sorte, culturellement parlant, entre ce que seraient des tribus Hutu et Tutsi. Alors cette vue panoramique hâtive, ça a été, il faut le dire, celle très fréquente de nombreux médias. Alors ce que je voudrais essayer d'expliquer ici, c'est l'aspect politique des choses autour de ces référents identitaires Hutu et Tutsi que je vais essayer de vous expliquer dans leur fonctionnement. Les crises s'emboîtant en fait d'un pays à l'autre sans forcément qu'il y ait similitude. Mais pour que les choses soient claires, que la nature de ces conflits soit claire, il faut que je prenne un exemple, et je vais prendre le plus emblématique. C'est le cas rwandais. Alors, je dois dire que j'aurais aimé parler de beaucoup d'autres choses parce que je commence à être moralement fatigué. Parce que ce n'est pas impunément qu'on est confronté dans les recherches à des situations de ce genre. Moi, je travaille sur cette région des Grands Lacs depuis aussi un demi-siècle, pratiquement, depuis le milieu des années 60, et je n'étais pas du tout, j'avais pas choisi cette région pour étudier les génocides. C'était une région d'Afrique qui m'intéressait parce que, pour tout dire, à 1200 km de l'océan Indien, à 2000 km de l'océan Atlantique, cette région n'a vu apparaître les premiers Européens qu'à l'extrême fin du 19e siècle. Donc j'avais la possibilité de combiner des archives avec des enquêtes orales où j'avais en quelque sorte des témoins, sinon oculaires, du moins de première génération, si on peut dire, dans les souvenirs des premiers contacts avec les Européens. Et puis, l'histoire avançant au cours de mes recherches, je me suis trouvé confronté à ces violences. Il était impossible que l'historien se taise à ce moment-là. Alors, le conflit rwandais donc, relève de plusieurs lectures, comme on va le voir. Il a pris une dimension mondiale, illustrée aussi par le parallèle yougoslave, par la création d'un tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha, avec cour d'appel aussi à La Haye. Mais là, je dois dire, on n'a pas cassé tous les jugements. Il y a eu des révisions, mais bon. Alors, je vais commencer par vous expliquer un peu une guerre civile qui couvre un génocide, ou un génocide qui est la forme prise par cette guerre civile. Il faut dire que les Banyarwanda, c'est-à-dire les Rwandais, si on parle avec eux en Kinyarwanda, pour caractériser cette époque, ils vont parler de la guerre, Urwano, la guerre. Et le mot génocide est un mot. Alors, il y a un néologisme en Kinyarwanda, Itsambabgoko, qui veut dire massacre d'une catégorie de la population, ou tout simplement le mot français qui a été introduit dans la langue, génocide. Donc, en fait, on est en néologisme face à une situation effectivement nouvelle, mais qui est décrite aussi comme une guerre. Donc, je vais essayer d'expliquer, au fond, ce qui s'est passé, mais de façon synthétique, sur cette articulation entre guerre civile et massacre systématique de toute une partie de la population. Après, je remonte dans les explications, il faut qu'on essaie de comprendre ensemble cet antagonisme entre deux ethnies, pseudo-ethnies, entre guillemets, qui sont en fait perçues en termes raciaux, expliquer aussi le contexte social rapidement de cette crise majeure, et puis terminer sur le fait que c'est l'expression d'un conflit politique aigu, d'une stratégie politique. Alors, rappel historique rapide. Le Rwanda et le Burundi que vous avez sur la carte, c'était avant 1914 deux districts de l'Afrique orientale allemande. Après la guerre de 1914-1918, ils ont été rattachés administrativement au Congo belge, mais sous le couvert du système des mandats. Donc, et les Belges ont réuni les deux pays sous ce nom bizarre de Rwanda-Urundi, combinant les deux. Comment dire, cet antagonisme Hutu-Tutsi que nous allons peu à peu approfondir, il n'existe pas d'emblée, enfin il a des racines et il a des activations et des recompositions et des redéfinitions que je vais tâcher d'expliquer. Ça renvoie à un clivage interne très ancien de cette société, héréditaire en voie patrilinéaire. Vous êtes le fils d'un père Tutsi et d'une mère Tutsi, vous êtes évidemment Tutsi, mais si vous êtes fils d'un père Tutsi et d'une mère Hutu, ou bien d'un père Hutu et d'une mère Tutsi, vous êtes de la catégorie de votre père. Donc on n'est pas devant deux peuples différents, tout le monde parle la même langue, tout le monde vit ensemble, partage une même histoire dans la mémoire collective. C'était deux royaumes dont les traditions font remonter la fondation. Alors plus on remonte dans le temps, plus ça devient légendaire. Mais disons, vers le XVIIe siècle, disons de façon assez évidente. Alors donc, ces deux catégories, dans l'imaginaire social, le Tutsi serait plutôt celui qui j'allais dire, sait bien caresser les vaches, qui est un bon éleveur. Le Hutu serait plutôt celui qui a la main verte, qui est le bon cultivateur. En fait, toutes ces activités sont associées dans la société. Je veux dire qu'il n'y a pas d'une part des Maasai poussant leurs troupeaux et d'autre part des Kikuyu, je prends l'exemple du Kenya, labourant la terre. En fait, les deux activités sont associées. Mais ce clivage existe, il est là. Ce ne sont pas les Européens qui l'ont inventé. Alors, qu'est-ce qui fait de ce clivage un élément qui va devenir peu à peu explosif? Il se trouve qu'on est en présence de royaumes, au royaume du Rwanda. Le Burundi, c'est indifférent, mais encore une fois, je vous ai dit, moi, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Alors, on va essayer de suivre ce cas rwandais pour comprendre. Au Rwanda, donc, la monarchie est gérée par une dynastie Tutsi, c'est-à-dire que c'est un lignage Tutsi qui, héréditairement, fournit les rois qui se succèdent du XVIIe siècle au XXe siècle. Donc, un régime dominé par des Tutsis, et donc une aristocratie Tutsi. Ce qui ne veut pas dire que tous les Tutsis sont aristocrates, et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucun Hutu dans les milieux influents du régime. Mais enfin, il y a une aristocratie Tutsi dominante. Donc, pour des raisons que je vais réexpliquer après, les Tutsis vont être encore plus favorisés au cours de la colonisation. Et je vais très vite dans l'événementiel, pour qu'on voit les grandes lignes. À l'issue de la période coloniale, à la fin de la colonisation belge, le pays va donc devenir indépendant en 1962, il y a un mouvement politique d'une élite Hutu, formée surtout dans les séminaires catholiques, parce que le pays est aux deux tiers catholique, et contre l'élite issue de l'aristocratie traditionnelle Tutsi. Et il y a ce que officiellement on appelle au Rwanda une révolution sociale. Cette révolution sociale, entre 1959 et 1961, c'est-à-dire encore sous la colonisation belge, et soutenue par elle, en fait, eh bien, porte au pouvoir des leaders Hutus et une république, présidée par un certain Grégoire Kayibanda, que nous allons retrouver un peu plus tard. Ce président est chassé du pouvoir en 1973 par un coup d'État militaire qui porte au pouvoir le général Habyalimana. Bon, alors donc, basculement d'une monarchie Tutsi à une république Hutu. Donc, on voit tout de suite les étiquettes Hutu et Tutsi associées fortement à une histoire politique. Alors, en 1990, je suis en train de vous balayer l'histoire, parce qu'on ne peut pas entrer dans tous les détails. En 1990, le régime de Habyalimana connaît beaucoup de difficultés économiques qui ressemblent beaucoup à ce que vous expliquez sur la Yougoslavie. Il y a des problèmes aussi économiques analogues sur les prêts internationaux, etc. Donc, des difficultés économiques, politiques, un certain réveil et un mécontentement croissant dans le pays, parce qu'en fait, le pouvoir est détenu par quelques familles qui sont des Hutus du nord du pays. Et il y a une opposition. Alors, tout ça se joue au niveau urbain, intellectuel, etc., essentiellement plus que rural. Il y a une opposition Hutu de gens qui sont issus plutôt des régions du sud. Donc, il y a un conflit interne. Tout cela contribue à déstabiliser le régime et s'accompagne en octobre 1990 d'une attaque, cette fois-ci militaire, on entre dans le sujet, c'est-à-dire une guerre civile. Pourquoi guerre civile ? Parce que les attaquants, certes, viennent de l'Ouganda, au nord du pays, mais donc dans le cadre d'une formation qui s'appelle le Front Patriotique Rwandais, le FPR, qui s'est constitué en Ouganda, mais qui est composé de Rwandais Tutsi, un certain nombre de Hutus aussi, mais essentiellement des Rwandais Tutsi, de la deuxième génération des exilés Tutsi. À peu près la moitié des Rwandais Tutsi est partie à l'étranger à l'issue des violences des années 60 et 70. Et donc là, ce sont les fils des exilés, de la première génération d'exilés qui reviennent armés. Pourquoi sont-ils armés ? Parce qu'ils ont participé à une autre guerre civile, dont je ne parlerai pas en détail, qui a eu lieu en Ouganda dans les années précédentes, entre 81 et 86. Donc, beaucoup ont été dans cette armée, ils ont des armes, etc. Ils pensent que le régime de Kigali est en difficulté, ils veulent en profiter. Cette offensive, alors venue de l'étranger, et là, il y a un débat, c'est-à-dire que le régime rwandais dit que ce n'est pas une guerre civile, c'est une attaque venue d'Ouganda. Et, en fait, les attaquants sont d'autres Rwandais. Et surtout, ce qui va apparaître de plus en plus, l'ensemble de la population civile rwandaise va être impliquée dans ce conflit. Alors, donc, cette attaque a lieu en octobre 90, elle est rapidement contenue grâce à des appuis étrangers, français, belges et zaïrois, on disait encore zaïre à l'époque pour le Congo, mais la guérilla va réapparaître l'année suivante, se déplacer vers la région des volcans, etc. Sous pression régionale internationale, un armistice est conclu, des négociations entamées à partir de 1992, elles débouchent en août 93 sur des accords signés à Arusha, en Tanzanie, qui prévoit un grand compromis, amalgame des deux armées, l'armée du FPR et l'armée du régime rwandais lui-même, et un partage de pouvoir entre le FPR, la faction présidentielle proche de Habyalimana, et l'opposition intérieure. Donc, en principe, À partir de l'été 1993, c'est une logique de paix qui prévaut et qui ne demande qu'à être appliquée. Le problème, c'est qu'elle n'est pas appliquée. Et qu'en mars 1994, il n'y a toujours pas de gouvernement de transition, d'Assemblée nationale de transition, comme prévu, qui sont mises en place. Il y a des violences dans tout le pays. Il y a des intimidations qui viennent essentiellement des extrémistes hutus qui veulent empêcher l'application. Et puis survient l'attentat contre l'avion du président Habyarimana le 6 avril. Je ne vais pas me lancer ici dans les débats sur qui a tiré sur l'avion. Il y a, selon les moments, des appréciations différentes. Et le problème n'est pas là. Il est de comprendre ce qui s'est passé sur le terrain avant et après au Rwanda. Alors, en tout état de cause, de quoi je parle quand je parle de guerre civile au Rwanda, c'est évidemment ce qui a précédé, c'est-à-dire des violences internes, je vais y revenir un peu, des massacres à répétition, des assassinats, etc., et une montée de cet antagonisme Hutu-Tutsi au sein de la société. Mais ce qui est au cœur de cette affaire, c'est ce qui se déclenche dès le lendemain du 7 avril 1994. Et alors là, c'est une véritable machine militaire, politico-militaire de génocide qui se met en branle, et une phase de massacre qui va durer jusqu'au début de juillet 1994. Les témoignages sont multiples, la littérature est déjà énorme à ce sujet. Donc, moi, je vais tâcher d'évoquer plusieurs aspects de ce génocide, où nous avons trouvé des éléments qu'on a vus au moment de la partition de l'Inde, ou qu'on a trouvé dans certains épisodes de la guerre civile en l'ex-Yougoslavie. Donc, dès l'aube du 7 avril, vous avez des rafles, des assassinats à Kigali. Et ces premiers assassinats, d'ailleurs, visent essentiellement des dirigeants politiques hutus, mais hutus de l'opposition, opposés à Habyarimana, l'ex-président, qui vient de mourir, et qui vise aussi très rapidement et systématiquement les Tutsis. Et puis qui vise aussi, entre parenthèses, 10 casques bleus belges, parce qu'il y avait une troupe des Nations Unies qui était sur place et qui se trouve prise également dans ces violences. Et la conséquence de cet assassinat, c'est que les forces de l'ONU vont être ont passé de quelques milliers à quelques centaines, que les Belges se retirent, etc. Donc, on est en présence d'une espèce de déclenchement très systématique, et tout ce que je vais vous expliquer, ça va tendre à aller à l'inverse d'une notion de guerre anarchique. Là, on est en présence, au contraire, d'une mobilisation politique forte. Le fer de lance des massacres, c'est la garde présidentielle, militaire, mais épaulée par des milices qui ont été créés depuis 1992, dites Interahamwe, c'est-à-dire ceux qui attaquent ensemble, une milice de l'ancien parti unique. Et donc, il y a ces miliciens. Le tout est couvert par un gouvernement intérimaire qui est mis en place le 8 avril, qui s'intitule gouvernement des sauveurs, Abatabazi, et qui est composé entièrement d'extrémistes hutus. Donc, j'emploierai plusieurs fois des formules de ce genre, on n'assiste pas à un feu de brousse incontrôlé. On est aux antipodes d'une sauvage mêlée interethnique, et contrairement à ce qui a souvent été suggéré. Alors, quelques exemples. Entre le 15 et le 20 avril, les autorités sont épurées. Il y a deux préfets, notamment. Le pays était divisé en préfectures. Donc, il y a deux préfets qui sont dégommés et puis tués. Un certain nombre de bourgmestres, c'est ainsi, selon le modèle belge qu'on appelait les responsables administratifs des communes, qui n'étaient pas élus, qui étaient nommés par le gouvernement, un certain nombre qui sont décrétés inactifs, qui sont considérés comme trop mous, et qui sont éliminés. Et parmi les organisateurs des différents massacres qui ont été décrits dans différents documents, témoignages, etc., vous trouvez des cadres militaires, des leaders de formation politique, celles qui sont unies autour d'un projet de pouvoir Hutu, Hutu Power, bien que le pays soit à l'époque tout à fait francophone, c'est cette expression anglaise décalquée de Black Power, en fait, qui est employée. Vous avez des responsables administratifs ralliés à ce programme qui gère ce qu'on appelle une autodéfense civile, des évêques même qui apportent dès le début leur appui au gouvernement intérimaire, des universitaires qui contribuent à la propagande, des médecins qui participent à l'épuration des hôpitaux, des enseignants soucieux de l'ordre dans leur établissement. Alors, le plus souvent, les massacres sont commis par des paysans, les responsables étant, je dirais, en deuxième ligne. Mais ce qui est important d'observer dans le déroulement des choses, c'est que ces tueries ne sont pas anarchiques, encore une fois. On peut dire qu'elles représentent un triomphe de l'efficacité de l'État rwandais. On voit que l'État rwandais, le pays n'est pas grand. Il est très peuplé, il est densément peuplé. Et il est d'habitat dispersé, donc il y a tout ce qu'il faut pour que les choses aillent dans tous les sens. Mais en fait, le pays est encadré avec un maillage très serré des préfectures, des communes, des cellules de l'ancien parti unique, etc. Donc il y a une espèce de hiérarchie du haut en bas qui encadre le pays, une hiérarchie bureaucratique qui descendait du président jusqu'au chef de secteur ou de colline qui étaient tous nommés par le pouvoir. Alors dans ce contexte de guerre civile, il est vrai qu'il y a eu mise en place par le gouvernement intérimaire d'extrémistes à la place, je l'ai dit tout à l'heure, d'autorités qui ne voulaient pas jouer ce jeu du massacre. Mais de toute façon, l'encadrement est bel et bien là. Et il aboutit, alors ça c'est le paradoxe, et c'est aussi une énorme question, il aboutit à la base à ce qu'on pourrait appeler un génocide décentralisé au niveau de la colline. Ce qu'on appelle la colline, c'est une unité d'habitat, hein, puisque c'est un pays de montagne un peu ressemblant plus au Massif central qu'aux Alpes, hein, un relief vallonné. Donc la colline, c'est la base, c'est l'endroit, tout à l'heure je crois qu'on parlait de ces ennemis intimes, tout le monde se connaît. Et la solidarité fonctionnait à plein entre Hutu et Tutsi au niveau des collines. Mais là, l'ennemi connaît tous vos secrets. C'est votre voisin. Il y a eu pas mal d'études à ce sujet et qui débouchent évidemment sur d'énormes questions. Mais quel que soit l'encadrement, quelle que soit la propagande, parce qu'il y a aussi toute une propagande qui a fonctionné pendant les années, une propagande extrémiste qui a fonctionné pendant les années précédant ce génocide dans la presse, mais dans ce pays... Je dis, bon, il y a une bonne partie qui n'était pas capable de lire, mais ce n'est pas tellement le problème, la plupart pouvaient lire, c'est la diffusion des journaux. Le journal extrémiste le plus important, il diffusait à 10 000 exemplaires dans un pays de 7 millions d'habitants. Donc, ce n'est pas la presse, mais ce qui va devenir grave, c'est à partir de l'automne 1993, va être créée une radio, tout le monde a entendu parler, la radio-télévision libre des Mille Collines, RTLM, qui va reprendre cette propagande, mais cette fois-ci, en diffusant largement dans un pays où beaucoup de gens ont un poste de radio et les relais permettant de couvrir l'ensemble du pays sont au point à peu près en mars 1994. Bon. Donc tout le pays est couvert par une propagande extrêmement virulente. J'aurai l'occasion de donner des exemples du contenu de cette propagande. Alors on aboutit donc à des dizaines de milliers de personnes qui participent à cette entreprise. Il y a un politologue américain, Scott Strauss, qui estime à environ 200 000 personnes les participants au massacre, ce qui ferait à peu près 10% des hommes adultes. Bon, alors ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas les Hutus qui ont tué les Tutsis, hein, ce sont des Hutus organisés, mis en condition par une propagande, par un encadrement, par la peur, par des rumeurs, etc. Tout ça est évoqué très bien dans plusieurs ouvrages. Alors, il y a récemment une thèse qui a été publiée sous le titre « Le génocide au village » de Hélène Dumas, qui est très, très bien pour montrer ce qui se passe à la base. On peut aussi penser au récit un peu réécrit de Jean Hatzfeld, une saison de machette par exemple, qui montre bien cette ambiance. Alors, le plus gros du génocide a eu lieu en avril, en fait, mais il a continué jusqu'au début juillet. Et alors, pourquoi parler de génocide plutôt que de nettoyage ethnique? C'est que nettoyage ethnique ou épuration ethnique pourrait signifier qu'on a tout fait pour chasser les Tutsis, pour qu'ils s'en aillent. Or non, puisque les premières barrières très efficaces sont, parce que le pays est donc sur toutes les routes il y a des barrières contrôlées par des miliciens, et toutes les frontières ont été barrées. Donc il s'agit d'éliminer et non pas seulement de chasser. Et d'ailleurs, on parle du travail à Kadzi. Enfin, le travail, c'est d'aller tous les jours massacrer, chasser les Tutsis qui se cachent et les massacrer. Les Tutsis qu'on intitule des cafards, Inyanzi, d'autres formules, par exemple, c'est comme aller balayer les feuilles sèches de bananiers avant de les brûler, etc. Les Tutsis, c'est par définition l'ennemi infiltré, complice du FPR, par définition, de par sa naissance, et donc les séances se répètent de manière lancinante, encore un exemple de l'organisation, On regroupe, on force à se regrouper les Tutsis dans certains lieux qui sont censés les protéger, églises, dispensaires, écoles, stades, etc. Les lieux sont encerclés, et les militaires jettent des tirs ou jettent des grenades, les gens essaient de s'enfuir et les miliciens les attendent avec leurs machettes, leurs lances ou leurs gourdins cloutés. Donc il y a manifestement une organisation avec une double obsession d'élimination de l'ennemi intérieur, mais aussi de son humiliation radicale. Et là, on retrouve le viol qui a été évoqué plusieurs fois, viol systématique, d'humiliation, toutes sortes d'humiliations calculées, puis des blessures infligées aux gens qui se calquent sur les fantasmes raciaux. Je vais y revenir à cette idéologie. Pour le moment, je raconte rapidement l'événement. Donc, l'idée que le Tutsi a un corps particulier. Donc, qu'il est plus grand, parce qu'il y a des fréquences de traits physiques, etc., je vais y revenir, mais il y a une lecture, une obsession du corps de l'ennemi, et donc les coups vont être portés au cou, aux chevilles, à la tête, etc., puis il y a le viol, toutes formes de cruauté, c'est pas la peine ça n'enrichira pas la réflexion à raconter dans des détails, mais ce que je voulais dire, surtout à ce niveau, c'est et c'est ce qui a été dit il y a peu à propos de la situation au Yougoslave, il y a manifestement, en mobilisant le plus de Hutus possible pour éliminer les Tutsis, c'est-à-dire pour éliminer des Rwandais qui vivaient avec les autres Rwandais jusqu'alors, depuis des siècles et des siècles. Il y a comme un projet de déchirure radicale du tissu social, comme si on voulait extirper les Tutsis de la société, et en même temps mettre tous les Hutus dans la complicité de ce qui s'est passé. Donc il y a une espèce de calcul, de solidarité. Après on pourra dire, mais non, tout le monde a tué, donc personne n'a tué quelque part. Bon. Ce qui est, pour illustrer aussi à propos du thème de la déchirure, Scott Strauss dans son enquête, c'est une enquête menée notamment auprès de centaines et de centaines de repentis dans les prisons du Rwanda, eh bien, les deux tiers des coupables ont des Tutsis dans leur famille. Bon. Alors, parallèlement, on va rapidement voir des cartes qui sont en rapport avec... Alors, je vais tâcher de ne pas faire de bêtises dans l'utilisation de ce pareil. Voilà. Alors, c'est plutôt celui-là qu'on doit regarder. C'est une carte qui est censée, c'est pas la prétention d'être totale, de censé représenter les lieux identifiés de massacres. Vous remarquerez qu'il y a à plusieurs reprises des croix, parce que des massacres ont eu lieu dans des églises. Bon. Donc des massacres qui ont eu lieu, vous voyez, notamment dans toute la Est, Centre, Sud, Ouest, enfin un peu partout dans le pays. Et alors, parallèlement, c'est là que j'étais engagé dans une autre phase de la réflexion, parallèlement... La guerre en tant que telle, non, c'est pas ça. Bon, revenons en arrière. J'ai l'habitude des souris. Moi. Voilà. Alors donc, le 8 avril, donc l'attentat est la nuit du 6 avril, le 8 avril, les forces du FPR, qui étaient cantonnées au nord du Rwanda, il y avait une zone démilitarisée, elles étaient cantonnées au nord du Rwanda, sauf un contingent qui symboliquement était à Kigali. Donc, en fonction du début des massacres et de l'option de massacre qui s'affirmait, le FPR attaque et il descend d'abord à l'est du pays, en avril, puis progresse en mai au sud, en juin vers l'ouest, et finalement en juillet au nord. Vers le sud-ouest, la progression sera... arrêté en quelque sorte par l'intervention française de l'opération turquoise. Alors, donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a simultanément des opérations militaires. Et d'ailleurs, c'est celle qu'on a le plus souvent montrée dans les médias à l'époque. On voyait des canons qui tiraient près de Kigali, etc. Et parallèlement, les massacres. Et en fait, il faudrait entrer dans les détails des chronologies, il n'y a pas un parallélisme, c'est-à-dire progression du Front patriotique rwandais, massacres, etc. Non, les massacres ont éclaté un peu partout dans tout le pays Et je vous ai dit, la plus grande partie des victimes, c'est au mois d'avril. Et il y a, par ailleurs, cette guerre. Donc, dès le 8 avril, le gouvernement intérimaire part vers l'ouest à Guitarama le 12 avril. Donc, guerre et génocide se sont mêlés dans la réalité, sur le terrain, mais aussi dans le regard qui a été porté sur ce qui se passait. Et on pourrait même se demander si l'adhésion à ce programme d'élimination de la population Tutsi n'est pas un des éléments qui a contribué à la perte militaire de l'armée rwandaise. Alors, j'ai parlé sans arrêt de Hutu et de Tutsi. Je reviens sur ces définitions. Je l'ai dit, ces deux catégories héréditaires en voie patrilinéaire. Il y a ce souvenir de l'aristocratie Tutsi à l'époque de la monarchie. Mais dès que les Européens arrivent, il y a, et ça a donné lieu à un livre que j'ai publié avec un collègue rwandais chez Belin récemment sur l'idéologie hamitique, il y a l'application à la région des Grands Lacs, à l'ensemble de la région des Grands Lacs, au Rwanda comme au Burundi et à l'Ouganda, d'un modèle idéologique qui s'est forgé au milieu du XIXe siècle, qui est le modèle hamitique. Alors, jusqu'au milieu du XIXe siècle, quand on parlait des fils de Cham, parce que c'est ça, hamitique, c'est Ham, hein, ou Cam, des fils de Cam ou de Cham, c'était les Noirs, maudits selon la tradition de la Genèse, etc. Mais à partir du milieu du XIXe siècle, il y a un discours scientifique de linguistes, d'archéologues, d'ethnologues, de philosophes, bon, y compris Gobineau, de théologiens aussi, pour dire non, le hamite, c'est une expression qui a aussi été employée par certains anthropologues, un faux nègre. Il y a les vrais nègres, ceux qui sont, à l'époque on ne disait pas banania, on disait modèle de débit de tabac à l'époque, au XIXe siècle. Il y a le vrai nègre, celui qui est bon pour l'esclavage, pour la traite. Et puis il y a des noirs qui ne sont pas des vrais nègres. Alors ça se voyait soit dans leur organisation politique, or là les royaumes au cœur de l'Afrique, ça a surpris tous les voyageurs, ou bien il y avait explication par des traits culturels et aussi des traits physiques. Alors, il se trouve que dans la région des Grands Lacs, vous avez des gens, et c'est plutôt fréquent chez les Tutsis, mais ce n'est pas général, c'est des fréquences, tous les Tutsis ne se ressemblent pas mécaniquement. Des fréquences de traits qui rappellent les traits de certains Éthiopiens ou de certains Somalis. Bon, donc il y a une histoire très ancienne du peuplement, mais qui ne correspond pas à des invasions récentes, qui est une histoire très ancienne de la rencontre de différents peuplements. Et ce fantasme racial a fonctionné de façon formidable, parce que les Européens qui colonisent ces pays sont peu nombreux face à une population très forte, très importante. Donc là, vraiment, la solution qui s'est imposée aux Anglais en Ouganda, aux Allemands, puis aux Belges, c'est ce qu'on appelait l'administration indirecte, c'est-à-dire on s'appuie sur des relais locaux. Et dans cette région, et notamment, l'histoire de l'Ouganda est encore plus compliquée, je ne peux pas tout expliquer, au Rwanda et au Burundi, l'idée c'est que pour que ça fonctionne bien, il faut s'appuyer sur la race supérieure. Or les Tutsis sont décrits comme des hamites, le mot revient sans arrêt, opposés aux Bantous. Entre parenthèses, tout le monde parle la même langue bantoue. Hein. Mais les hamites s'opposent aux Bantous, ils sont plus intelligents, c'est eux qu'il faut appuyer, qu'il faut privilégier dans les écoles, et cela donne la situation que j'évoquais tout à l'heure, à la fin de la colonisation, où il y a un contentieux social énorme entre Hutu et Tutsi, en particulier au niveau des problèmes de l'instruction, des élites et tout ça, et tout cela. Alors, la décolonisation, donc je l'ai dit, est accompagnée d'un contre-discours. Alors, le problème, c'est que la révolution sociale que j'ai évoquée tout à l'heure dans mon parcours événementiel, c'est la protestation, donc elle est fondée sur la protestation d'une élite hutue contre les régimes privilégiant les Tutsis. Mais le discours tenu par ces leaders reprend mot pour mot le discours de la colonisation, c'est-à-dire un discours racial, c'est-à-dire, en gros, eh bien, la race Tutsi a dominé, ce sont des féodaux, des étrangers, et ce sont les vrais Rwandais, nous les Hutus, qui devons gouverner. Discours de Kayibanda en septembre 59, lors d'un meeting politique. Notre mouvement vise le groupe Hutu, outragé, humilié, méprisé par l'envahisseur Tutsi. Nous devons éclairer la masse, nous sommes là pour faire restituer le pays à ses propriétaires, c'est le pays des Bahutus. Donc vous voyez, une révolution sociale, mais qui, moins qu'on puisse dire que ce langage n'est pas marxiste, il est plus un langage de lutte de race. Et cela va être sans, périodiquement rappelé, ce souvenir fondateur de la République Hutu. Et en 1990, donc c'était le dessin qui est apparu tout à l'heure. Alors, en 1990, là, c'est en, à partir de fin 90, là, c'est en novembre 91, un des organes les plus importants de l'extrémisme Hutu publie cela en couverture. Alors, le portrait de Kayibanda, le président fondateur de la République, à gauche, vous voyez, une machette. En haut, un titre ironique, les Batutsi, race de Dieu, en quelque sorte, point d'exclamation. Et puis des formules sur le côté ou là qui disent le moyen de, que nous employerons pour régler définitivement pour régler définitivement pour vaincre définitivement pardon les cafards. Bon, sous-entend, ça c'est la légende pour ça, pour la machette. Le moyen que nous emploierons pour résoudre définitivement le problème, pour vaincre définitivement les cafards. Et en bas, le retour de la révolution des Bahutu en 59 pour que nous triomphions des cafards Tutsi. Bon, alors, je crois que ça illustre bien, et on est en novembre 91, hein, on n'est pas encore. Et la propagande, j'évoquais tout à l'heure la propagande, ce n'est pas une propagande, comment dire, de haine ethnique banale et traditionnelle, c'est une propagande assez savante sur un mode racial. Exemple de citation, tu peux appartenir à une ethnie sur les papiers, parce qu'il y avait aussi beaucoup de gens, j'ai oublié de dire au passage qu'il y avait des cartes d'identité où les appartenances ethniques étaient mentionnées, donc il y a des gens qui se tiraient d'affaires de différentes manières, qui changeaient d'ethnie. J'emploie ethnie toujours avec des guillemets. Tu peux appartenir à une ethnie sur les papiers, mais dans quelle veine puiseras-tu le sang de cette ethnie que tu prétends la tienne? Ou encore, redécouvrez votre ethnie. Vous êtes une ethnie importante du groupe bantou. Les Tutsis possèdent un code franc-maçonnique qui leur permet de se reconnaître entre eux. La nation est artificielle, l'ethnie est naturelle. C'est pas un discours de sauvage dans la forêt, hein. C'est élaboré. C'est une propagande qui renvoie à une idéologie. Ou encore, j'arrêterai pratiquement là, un cafard ne peut pas donner naissance à un papillon. Un cafard donne naissance à un autre cafard. L'histoire du Rwanda nous montre clairement qu'un Tutsi est demeuré identique à lui-même, qu'il n'a jamais changé. La malice, la méchanceté sont celles que nous connaissions dans l'histoire de notre pays. Et quelques jours avant l'attentat, on annonce une lutte finale qui n'épargnera personne. Bon, alors, j'ai décrit les violences, l'arrière-plan idéologique, il y a un terrain social. Vous voyez, c'est comme ça évoque des débats très récents. Quand on analyse des violences extrêmes, il y a plusieurs lectures. Il y a un terrain social. La misère est forte, la pression foncière est très grande. Mais en fait, que se passe-t-il? Le mécontentement social, qui normalement s'exprime, et il s'exprime effectivement d'ailleurs, à travers une opposition contre le régime. On le contraste entre un discours rural du régime et l'affairisme et la corruption qui règne au sommet. Donc il y a un mécontentement, voire un désespoir des populations rurales. Mais ce qui se passe, c'est en quelque sorte le succès d'une propagande qui a réussi à reporter ce mécontentement sur un bouc émissaire qui est le Tutsi, ennemi traditionnel des Hutus. Donc c'est vraiment un système de report d'un malaise social sur un ennemi défini comme racial et définitivement responsable de tout. En 93, vous avez un magistrat rwandais, un Hutu d'ailleurs, il faut toujours préciser, bon, qui a écrit un livre sur le fonctionnement de la justice et qui dénonçait les partis extrémistes en disant « mais ils prétendent lutter contre le FPR, mais en fait, c'est un moyen pour eux de lutter contre l'opposition interne qui inquiète les caciques du régime. Et quand le parti, qu'il dénonce le parti CDR, demande de manifester contre ceci ou cela, pour eux c'est une revanche de déshérités sur tous ceux qui mangent à leur faim, mais les Rwandais devraient faire attention à cet ethnisme déguisé, c'est comme cela qu'est né le nazisme. » C'est un magistrat rwandais qui fait ça en 93. Bon, donc, terreau social réutilisé par une propagande. Alors, donc, pour terminer, puisque j'ai mis dans mon sous-titre les enjeux politiques, en fait, on est devant une sorte de crise politique majeure où les gens qui ont mené la danse, si on peut dire, les extrémistes Hutus, ont utilisé à fond une idéologie de race, mais pour régler un problème politique. Parce qu'au fond, à partir de l'été 90, de l'automne 90, le Rwanda est engagé dans une espèce de course contre la montre entre, face à l'ouverture d'un front de guerre civile sur la frontière nord, décrit comme un front d'agression, hein, entre une logique de paix, de négociation, mais aussi de réforme, et une logique de crispation, de guerre civile, de remobilisation ethnique. Et au fond, on assiste à cela. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture, il y a des partis politiques qui apparaissent, un multipartisme qui est reconnu, un gouvernement de coalition même qui va être constitué entre les partisans du président et l'opposition intérieure. Il y a donc une ouverture, notamment en 1992. Et en face de cela, il y a ceux qui, utilisant la propagande que je viens d'évoquer, utilisant la création des milices, etc., comment dire, veulent remobiliser le pays sur cette ligne ethnique, pour, non pas pour combattre, si, pour combattre le FPR, mais aussi pour casser l'opposition intérieure. Il s'agit que tous les Hutus pensent Hutu. C'est ça le discours. Que tout le monde pense ethniquement. Et donc, les opposants de l'intérieur sont, et c'est dit dans ces journaux extrémistes, sont des traîtres. Et d'ailleurs, beaucoup de Hutus dits modérés, moi je ne trouve pas que ce soit des gens très modérés, parce qu'ils ont été très courageux, ont été tués aussi au cours de ces massacres. Alors, donc, on est en présence d'une option politique choisie par des extrémistes qui mettent en scène un antagonisme qui avait un certain nombre de racines historiques, beaucoup plus d'ailleurs dans la gestion coloniale qu'antérieurement, mais sans exclure ce qui s'était passé plus anciennement. Il y a toute une série d'héritages historiques, mais qui sont mis en forme en un bloc racial, l'ennemi Tutsi face au peuple Hutu. Et donc, on débouche sur cette situation de massacre où l'obsession raciale, la peur, l'encadrement, tout cela a pu jouer pour donner des horreurs absolues. Alors, si j'avais eu le temps et si j'avais commencé à parler des autres pays, j'aurais essayé de vous expliquer comment ces mêmes phénomènes fonctionnent au Burundi, mais fonctionnent en décalage et dans un pays qui ne connaissait pas au départ, à l'indépendance, la même structure ni les mêmes problèmes. Il faudrait aussi que j'explique comment la crise a débordé sur le Congo, et j'y pensais en écoutant l'exposé sur la Colombie. La situation de guerre civile au Congo ressemble de plus en plus à une situation de mafia, d'intérêt, de ce qu'on aurait appelé peut-être en la France du Moyen-Âge des grandes compagnies. Enfin bon, là les compagnies, c'est plutôt des compagnies minières d'ailleurs, ou qui vous. Bon. Et il faudrait aussi évoquer comment l'Ouganda s'est retrouvé pris dans ce maelstrom de violence. Et ensuite, pour terminer, comment aujourd'hui les débats de mémoire sont immenses sur cette région. Débats de justice, de mémoire, de réconciliation, on ne parle que de cela. Chaque fois, ça se passe en termes très différents, entre le Rwanda et le Burundi, par exemple. Mais enfin, ceci est une autre histoire. Moi, j'ai voulu surtout vous expliquer comment on a atteint l'horreur absolue, mais pas de façon anarchique et barbare et traditionnelle, parce que les Hutus et Tutsi ne s'étaient pas massacrés comme ça autrefois, mais dans le cadre d'un combat politique de plusieurs décennies, mais qui a pris un tour d'une violence inouïe, dans un contexte de guerre civile ouverte par le Front patriotique rwandais à partir d'octobre 90. Donc il y a tous ces éléments qui ont... Voilà.
Merci beaucoup. Je ne tiens pas au mot sauvage, mais sauvage n'est pas anarchique, donc ça peut être délibéré et devenir sauvage. Dans les expressions, mais enfin, je ne tiens pas du tout. Alors, nous sommes parvenus à la fin de nos débats, enfin, des débats, de nos exposés. On prévoit une conclusion générale que je ne vous infligerai pas, pour la bonne raison que je suis hors d'état d'en produire une, hors d'état physique, moral non, mais intellectuel, et tout simplement parce que c'est d'une telle richesse que, bien... Je dois laisser à chacun la tâche, enfin, d'en tirer des conclusions, c'est-à-dire qui aillent dans le sens d'un éclaircissement de ce sur quoi on travaille. Alors, moi, je travaille dans ce cadre du projet sur l'homme et la guerre, sur tous les aspects, toutes les dimensions du phénomène, et donc je suis particulièrement réjoui de ce que j'ai entendu pendant ces 3 jours, parce que j'étais là depuis la première minute jusqu'à la dernière, et je suis confirmé, si vous voulez, dans le pari que j'ai formulé il y a 2 ou 3 ans, qu'en me lançant dans ce projet, je ferai émerger effectivement une foule de phénomènes dans leur variété, dans leur distinction, dans leur différenciation, mais tout de même, il y a un lieu conceptuel commun qui est celui de la guerre ou de la conflictualité, si vous voulez, dans toutes ces expressions et toutes ces traductions. Alors, si quelqu'un doit faire une conclusion générale, ça ne peut être que M. Delvolvé, qui, qui tient absolument à prendre la parole, eh bien, je la lui donne très volontiers.
Merci, Monsieur le Président. Je n'ai évidemment pas la prétention de faire une conclusion générale, d'autant plus que vous l'avez déjà esquissé et ce que vous avez dit sera, je suis sûr, prolongé par ce que vous écrirez. Non, j'ai une parole un peu rentrée, puisqu'hier je voulais intervenir et que l'heure étant passée, je me suis inscrit pour aujourd'hui. Ce qui me frappe dans ces exposés extrêmement riches, avec cette extraordinaire variété d'hypothèses, mais qui ramène toujours à la guerre et en même temps à l'horreur, c'est dans certains cas, pas toujours, dans certains cas, la relation entre la guerre civile et la guerre étrangère, entre la guerre interne et la guerre internationale. Nous en avons eu des illustrations particulières hier et encore un peu aujourd'hui. Dans certains cas, c'est la guerre étrangère qui s'inscrit, qui s'introduit dans la guerre civile. Et dans d'autres cas, c'est la guerre civile qui s'insère dans la guerre étrangère. Alors, premier cas, la guerre étrangère qui s'insère dans la guerre civile. Nous en avons eu une illustration particulièrement éclatante hier, avec le cas de la guerre d'Espagne, où, d'un côté, l'Allemagne et l'Italie soutiennent Franco, de l'autre côté, l'Union soviétique soutient le gouvernement républicain, et c'est l'annonce de la guerre étrangère européenne qui va commencer en 1939, et puis s'agissant des Russes, en 1941. Et il y a un aspect international dans le cas de la Croatie, je ne parlerai pas exactement de la guerre étrangère, mais c'est quand même une intervention internationale, notamment dans le cas du Kosovo, vous l'avez décrit parfaitement. Il y a, je n'oserais pas parler de guerre internationale, alors que dans le cas de l'Espagne, c'est très net, mais de guerre étrangère, ben, il y a une certaine internationalisation. Mais ce qui est plus net dans d'autres cas, c'est l'insertion de la guerre civile dans la guerre étrangère. Et le premier cas a été souligné par M. Pellistrandi hier, non pas de la guerre d'Espagne de 36-39, mais des débuts de la guerre en Espagne en 1808, lorsqu'il a souligné qu'il y avait une partie du peuple espagnol, les libéraux, qui étaient favorables à l'intervention napoléonienne, c'est l'accueil des idées nouvelles, c'est l'accueil des Lumières, et il y a eu des mouvements, il n'a pas beaucoup insisté là-dessus, ce n'était pas son sujet, mais en rappelant ce qui s'était passé avant la guerre civile, il a bien montré qu'il y avait déjà eu, en 1808, des éléments de, ou à partir de 1808, des éléments de guerre civile liés à l'intervention française en Espagne. Et ce qui a été le plus net encore, c'est l'exposé qui nous a été fait hier à propos de la Chine, ou alors la guerre étrangère, c'est le premier temps de la guerre civile, c'est l'occupation de la Chine par les Japonais, et c'est la lutte contre les Japonais, à la fois par le Kuomintang et par le Parti communiste. Et cette lutte contre les Japonais, où il y a un objectif commun, se prolonge ou se combine avec une lutte, une guerre civile épouvantable entre les communistes et le Kuomintang, mais les uns et les autres ont une vision de libération de la Chine par rapport à l'occupation japonaise, mais ça se tourne, ça se traduit ensuite avec un conflit qui est une pure guerre civile. Est-ce que je peux prolonger en disant que ce type d'insertion de la guerre civile dans la guerre étrangère s'est trouvé en France au cours de la dernière guerre. Parce que nous avons eu évidemment une occupation, nous avons une résistance, et une résistance qui était une résistance que grosso modo on peut qualifier d'une résistance C'est très schématique, mais une résistance de gauche, le PPF, et puis une résistance de droite, et dans un même lieu, je peux en témoigner par les récits qui m'ont été faits par des habitants d'un village voisin du mien, dans le sud-ouest, où il y avait deux maquis. Deux maquis, l'un de droite, l'autre gauche, et deux maquis qui avaient un objectif commun, c'était les Allemands, mais qui ont eu également des confrontations. Et ça s'est traduit notamment par des dénonciations, puis à la libération, une série de vengeances, autant de phénomènes qui ont été évoqués hier à propos de l'Espagne, les phénomènes qu'on retrouve à la libération, avec un certain nombre d'exécutions, de vengeances, etc. Et cette opposition entre maquis de droite et maquis de gauche a été surmontée grâce à De Gaulle, qui a réussi à assurer l'unité et à tempérer ou à arrêter les débordements qu'on a connus. Enfin, moi, je n'ai pas connu, enfin, je vivais déjà, mais enfin, j'étais trop enfant pour m'en rendre compte, qu'on a connus à la libération. Et je crois que c'est peut-être un programme à mettre dans d'autres journées, celui que de la relation entre guerre civile et guerre étrangère, et peut-être l'étude de la guerre civile en France entre, je ne dirais pas 1940, mais entre 1942 et 1944.
Merci. Pour ce qui est de la France, on peut remonter au moins aux guerres de religion, au XVIe siècle.
Oui, mais elles ont été traitées.
Oui, oui. Non pas pour en terminer, mais guerre et guerre civile, j'utilise très volontiers, c'est d'inspiration clausewitzienne, d'un schème mental qui est celui des polarités complémentaires. C'est-à-dire, aux deux pôles, il y a des cas purs, c'est-à-dire une guerre entre politiques constituées, c'est le cas pur, et puis à l'autre extrémité, il y a une politique qui se divise en deux, et les deux parties se font la guerre. Et entre les deux, il y a un continuum, entre les deux pôles, il y a un continuum, et les différents cas historiques, et sur des millénaires, se placent plutôt du côté de la guerre ou plutôt de la guerre civile. C'est un moyen commode, si vous voulez, de concilier des choses qui paraissent inconciliables. Je ne crois pas beaucoup au pôle contradictoire, mais je crois beaucoup au pôle complémentaire. Ça, c'est une vision chinoise, d'ailleurs, des affaires humaines, et ça marche généralement très bien. En tout cas, je ne conclurai pas, mais je le ferai, je rédigerai quelque chose tout de même en introduction, en conclusion, pour asseoir ces distinctions et ces réflexions sur des bases un peu plus solides. Il me reste à remercier tous ceux qui ont participé activement en prenant la parole à ces trois jours de colloque, à remercier ceux qui y ont assisté et qui se sont, je l'espère, instruits. Ceux qui ont parlé se sont très certainement instruits aussi, on s'instruit toujours. C'est une réflexion que m'avait faite il y a très 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 longtemps Fernand Braudel, sur un trottoir, si vous voulez, à propos de séminaires. Il m'a dit, on apprend toujours, toujours au moins une chose. C'est vrai, en général c'est plus d'une, mais au moins une. Et bien, tant mieux, c'est-à-dire que les choses avancent, le savoir avance, la compréhension des choses avance aussi en s'y mettant à plusieurs et en s'écoutant les uns les autres. Enfin, la science, c'est un réseau de gens qui sont animés par l'esprit de vérité, enfin qui cherchent la vérité. Chacun échoue, mais l'ensemble peut progresser. En tout cas, merci à tous, bonne soirée et bonne récupération. Thank you.